Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans La France bouge, au service d'un monde qui change. Et oui, vous êtes au bon endroit pour découvrir des talents, des idées, des femmes et des hommes qui accompagnent les changements de notre société. La France bouge, c'est votre rendez-vous des entrepreneurs et de nos pépites françaises. Au sommaire de votre émission, à quoi vont ressembler nos routes et nos villes de demain? Comment rendre les routes plus sûres grâce à une signalisation intelligente? C'est ce que fait l'entreprise La Croix City, entreprise familiale de plus de 80 ans. Elle renforce la signalisation routière en cas de danger. Le patron de La Croix City, le directeur général exécutif de l'activité City de La Croix City, Vincent Sabot, il est l'invité de La France bouge. À la une, donc, une nouvelle façon d'éclairer nos villes. Comment ? Grâce à des bactéries marines, ça s'appelle Glowy, c'est la start-up du jour et on la découvre d'ici quelques minutes. Ensuite, nous partirons à la Grande Motte près de Montpellier, ville nouvelle, entièrement imaginée et construite par un architecte en 1963. Rendez-vous à 13h30 pour le récit de Quentin Paillet. Les trophées de l'avenir, ils ont une minute trente pour nous convaincre avec notre partenaire de la CCI. Et vous, bonjour Nathalie Carré.
Bonjour Elisabeth, alors aujourd'hui on va recevoir Bim Boom, c'est un service de chauffeur électrique à vélo particulièrement bien adapté aux déficients visuels.
Et puis en fin d'émission, demain un emploi, 80 postes à pourvoir, où ça? Eh bien rendez-vous à 13h50 pour le savoir. Allez, bienvenue dans La France bouge, vous pouvez nous suivre en direct sur europe1.fr. C'est parti, nous sommes ensemble jusqu'à 14h. La France bouge, c'est ici que nous découvrons nos talents français en direct sur Europe 1 et on va se projeter dans les villes de demain, dans les routes qui nous permettent d'être encore plus en sécurité. Bonjour Vincent Sabot.
Bonjour.
Bienvenue dans La France bouge, vous êtes le directeur général exécutif de l'activité City de La Croix City. La Croix City, c'est une entreprise familiale, elle est cotée en bourse. La Croix City existe depuis plus de 80 ans et avec vous, la signalisation routière, donc c'est-à-dire les panneaux qu'on voit sur les routes, devient intelligente cette signalisation. Il y a plus de 5000 salariés, vous travaillez aussi sur la ville de demain. Tiens, on va commencer là-dessus. C'est quoi la Smart City, la ville intelligente?
Alors c'est la question clé. La Smart City, elle a beaucoup de définitions et les définitions aussi dépendent des pays, des pratiques qui se font.
En tout cas, on reste en Europe, en France déjà.
Voilà, on reste en France. Donc si on prend la version française de la Smart City, c'est une Smart City qui se développe beaucoup autour des infrastructures de la ville et des territoires et où la voirie joue un rôle très important parce qu'il y a un certain nombre d'équipements qui permettent de régler les aspects de trafic, d'orienter, de fluidifier les déplacements. Et elles permettent aussi de donner un certain nombre d'indications sur l'activité. Elles permettent aussi de travailler sur l'attractivité des villes et territoires, c'est un sujet vraiment important pour beaucoup de nos clients.
Donc elle agit sur plein de domaines, cette ville intelligente. Vous êtes un acteur majeur de ces villes de demain. Vous agissez énormément. Vous intervenez à quel moment?
Alors nous, on est le groupe La Croix est un groupe technologique à forte assise industrielle avec trois activités. Donc l'activité City dont je m'occupe, on va y revenir tout à l'heure. Et puis on a également une activité de sous-traitance électronique. Ça, c'est un peu notre base technologique qui permet de fournir des cartes électroniques, des objets connectés à différentes industries, y compris mon activité. Puis on a une activité également sur l'environnement.
D'accord.
Qui travaille sur des systèmes technologiques liés aux réseaux d'eau, réseaux de chaleur et réseaux d'électricité.
Alors sur la partie des villes intelligentes.
Sur la partie des villes, voilà.
Oui.
Il y a trois grands domaines sur lesquels on travaille. Le premier, c'est la sécurité routière. Vous l'avez évoqué au début, les panneaux de signalisation qui effectivement deviennent de plus en plus intelligents. Ils deviennent connectés, ils permettent par exemple de protéger des passages piétons, des passages cyclistes.
Ça nous paraît évident pour vous, mais vous les protégez comment? Vous mettez des capteurs?
Voilà, on met des capteurs qui permettent de détecter les flux au niveau du passage, de détecter si quelqu'un approche, que ce soit un cycliste ou un piéton.
Qui détecte?
C'est le capteur qui va le détecter, donc c'est un capteur qui détecte de manière anonyme. Il va simplement compter, il y a une personne qui est là, dans un certain rayon, dans un certain champ. Et ensuite, il va activer en amont de la voirie des panneaux de signalisation lumineux.
Et quel genre de panneaux? Attention piéton, c'est quoi
panneaux? Oui, c'est des panneaux attention piéton classiques qui sont ceux du code de la route et qui permettent d'informer les véhicules qui arrivent, qui sont en approche. Ben, ça peut être également des cyclistes parce qu'on peut avoir la même version pour les pistes cyclistes. Les mobilités sont en train de changer, c'est un sujet important sur lequel on travaille également. Et donc de prévenir, attention, il y a des piétons qui vont traverser. Donc bien sûr, il faut anticiper la traversée. Mais ça peut être également, on a une version pour les animaux.
Oui, sur les routes. Sur les routes départementales, voilà, en plein cœur des campagnes.
Un grand sujet.
Maintenant, grâce à vous, on peut savoir s'il y a un cerf qui va passer, en gros.
Voilà, on peut savoir s'il y a un cerf qui va passer. Et on fait également du comptage des types d'animaux. Ça, c'est important également pour les autorités ou les associations qui s'occupent de protéger la faune.
Mais comment vous me le dites, s'il y a un cerf qui va passer, si je suis sur une départementale, en plein
milieu
de la campagne?
On va utiliser la même technologie, alors c'est un peu plus distant, mais on va voir le panneau « Attention cerf »
qui va s'illuminer dans la nuit.
Voilà, tout à fait, qui va simuler la nuit. Et donc, ça, on a des statistiques, ça montre que ça marche.
Et ça marche.
Et ça, voilà, ça réduit les accidents et ça protège la faune.
Nathalie?
Oui, vous développez toutes ces... plein de technologies
plein de
pour
choses,
nous
là,
sécuriser. Enfin, oui, on est vraiment pour nous sécuriser, mais finalement, ça ne changera pas forcément le manque de responsabilité individuelle. Le vélo qui grille le feu rouge, la trottinette qui se met dans l'angle mort du bus, le piéton qui... Voilà.
Oui, si on ne connaît pas son code de la route, qu'on soit piéton...
La responsabilité citoyenne reste, tout à fait.
Reste, voilà. Et puis, on a tout le temps... même les conducteurs, maintenant, regardent leur téléphone. Donc, même si votre panneau, il rougit...
Même s'il clignote et qu'il fait...
Et s'il clignote, à un moment donné...
Voilà, ouais.
Alors, il y a quand même une limite en fait à la technologie.
C'est là où on a d'autres technologies à l'intérieur de la Croix-City qui permettent également, donc c'est ce qu'on appelle le V2X, c'est-à-dire qu'on a la possibilité, si les voitures sont connectées, de passer des informations au niveau
via
du
la
conducteur.
Voiture directement.
Voilà.
D'accord.
Et ça, c'est des choses qui sont en train de se déployer. Bien sûr, ça suppose que les voitures soient équipées. Donc, il y a aussi un travail qui est fait par l'industrie automobile d'amener ces technologies.
Enfin bon, tout le monde n'a pas des voitures ultra connectées, ultra performantes.
Ça va venir très rapidement.
Oui, mais dans longtemps.
Non, ça va venir beaucoup plus rapidement. La voiture connectée, c'est quelque chose, c'est horizon de 3 ans. La voiture autonome, là, c'est
autre chose.
Non,
mais je parle pas de la voiture autonome.
Moi, j'ai une Dacia Logi, elle est pas du tout connectée, et dans 3 ans, elle le sera pas, je vous assure.
Et vous n'allez peut-être pas la changer d'ici 3 ans.
La changer, j'ai pas les moyens de racheter une voiture à 30 000.
Non, c'est pas une question de racheter une voiture extrêmement chère. C'est pas, je fais pas de la publicité pour l'industrie automobile,
mais le
point,
c'est intéressant. 3 ans.
Et c'est très intéressant parce que les technologies sont prêtes, elles sont abordables. Elle commence à être embarquée de manière systémique dans les nouvelles séries de voitures. Bien entendu, ça prend beaucoup de temps pour changer tout un parc automobile. Donc, c'est pour ça que les solutions, entre guillemets, de signalisation classique ont toute leur valeur, parce que ça reste quand même un élément très important.
Si on résume, vous prenez les panneaux de signalisation classique qu'on a tous appris pendant le code de la route, sauf que vous y mettez des capteurs, un peu d'intelligence artificielle pour qu'ils deviennent encore plus performants compte tenu du trafic qui s'est beaucoup intensifié depuis ces dernières années.
Voilà, là,
c'est ça,
on touche aussi à une autre activité qu'on a autour de la régulation trafic, où là, on va parler des croisements.
Alors oui,
avec
justement.
Les feux tricolores. Et c'est également des domaines qui sont en train d'évoluer.
C'est-à-dire,
parce que les mobilités changent. Vous avez de plus en plus dans les villes des cyclistes, prenons l'exemple des cyclistes. Et c'est fort heureux puisque ça participe à la décarbonation des villes. Et donc, la manière de gérer le trafic au niveau d'un croisement par les feux tricolores doit également changer. Et là-dessus, on amène également des solutions qui permettent de compter très finement la typologie de trafic au niveau de ce croisement. Et en fonction de ça, de prioriser certains flux.
Alors, donnez-nous un exemple.
Un exemple, on l'a testé par exemple à la métropole de Rennes récemment. On va privilégier les flux piétons et cyclistes en dehors des heures de pointe, exactement. Et pendant les heures de pointe, par contre, on
ça
va quand même prioriser les voitures pour éviter de faire des bouchons.
Ça veut dire que quand vous allez privilégier les piétons et les cyclistes,
ils auront plus
ça signifie que le feu rouge va durer plus longtemps pour nous.
Le feu rouge va durer plus longtemps. Mais vu qu'il y a moins de trafic de voitures, en fait, ce n'est pas visible pour les usagers.
D'accord. Et en heure de pointe, c'est l'inverse.
Et en heure de pointe, logiquement, c'est l'inverse pour éviter de créer des bouchons. Mais de temps en temps, quand même, il faut laisser passer les flux de piétons et surtout de cyclistes parce qu'en général, les gens se déplacent à vélo maintenant de plus en plus, enfin en même temps que les voitures.
Et toujours dans cette idée de réguler le trafic, vous avez mis même en place des carrefours intelligents.
Voilà, c'est ça. C'est un exemple.
Là aussi, ce carrefour va nous permettre de fluidifier, parce que souvent il y a des embouteillages quand il y a des carrefours. Vous, au contraire, vous agissez là-dessus. Comment vous faites? Vos clients, on l'a compris, Vincent Sabot, ce sont essentiellement les collectivités.
Oui, tout à fait,
ce sont les
collectivités.
Là, il y a énormément de villes qui sont en travaux. On peut penser à Paris.
Mais il n'y a pas que.
Il n'y a pas que Paris. Là aussi, vous intervenez pour cette période de transition où il y a un trafic qu'on n'a jamais vu. Tout le monde le dit, impossible de circuler. Est-ce que vous, la Croix-City, vous pouvez proposer des solutions temporaires pour pouvoir passer ce moment de
travaux? Bien sûr, on a des clients qui nous demandent des solutions temporaires. Mais de plus en plus, les clients aussi s'inscrivent dans les perspectives de long terme. C'est-à-dire que ces aspects de gestion du trafic indépendamment des travaux qui sont
souvent nécessaires. Oui, mais là, il faut les résoudre maintenant, l'histoire des travaux.
Il faut résoudre les problèmes maintenant, mais il faut aussi se projeter dans l'évolution des mobilités. Et l'arrivée, l'avènement des mobilités douces est fait pour rester.
Ok, alors vous allez en tout cas vous rester avec nous pour parler justement de ces mobilités douces, de cette ville de demain, de ces signalétiques, ces signalisations qui nous permettent d'éviter finalement des accidents. Vous avez
absolument
un chiffre ? On les évite de combien, les accidents, grâce à ces signalisations et ces capteurs infrarouges connectés sur nos routes ?
Par exemple, sur la faune, on a réduit de 70% le taux d'accident. Donc on a
70%.
Ah oui, quand même.
Quand même. Vous restez avec nous, Vincent Sabot, directeur général, l'exécutif de La Croix City. Il est 13h13 sur Europe 1.
Europe 1. La France bouge. Elisabeth Assayag.
Et si vous nous rejoignez, bienvenue dans La France bouge, l'émission qui met en avant les entrepreneurs français, nos pépites françaises. Et aujourd'hui, on imagine déjà la ville de demain, les villes connectées. C'est ce qu'on appelle les smart cities, avec des carrefours intelligents, avec des lampadaires qui éclairent au moment où les passants s'avancent sur une rue, ou encore des solutions pour éviter les animaux sur des routes mal éclairées. Nous sommes avec notre grand témoin du jour, c'est Vincent Sabot. Vous êtes le directeur général exécutif l'activité City chez La Croix City, une entreprise familiale qui a plus de 80 ans. Nous sommes toujours avec Nathalie Carré, en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de commerce et d'industrie. Et améliorer la signalisation sur les routes, on l'a dit, ça nous permet d'éviter des accidents. Vous nous l'avez dit, votre solution permet d'éviter plus de 70% des accidents, c'est ça ?
En prenant l'exemple de notre solution pour la protection de la faune dans les territoires,
les campagnes. Il y a aussi l'éclairage. Comment faire en sorte de garder nos villes éclairées sans que cela devienne un gouffre énergétique ? C'est aussi un de vos sujets. On va en parler avec vous. Comment utiliser la nature dans nos centres-villes ? Nous, à La France Bouge, on a trouvé la solution grâce à une start-up. Bonjour Sandra Ray.
Bonjour.
Bienvenue dans La France Bouge. Vous êtes la fondatrice de Glowy. Glowy, ça s'écrit G-L-O-W-2-E. Ça existe depuis 8 ans et vous éclairez les rues par des hauts bassins bioluminescents. Alors, ça peut nous paraître un peu technique, mais d'abord, vous allez nous expliquer le principe.
Alors, le principe, c'est le phénomène naturel de la bioluminescence, qui est la capacité qu'ont beaucoup d'animaux à produire de la lumière, d'organismes vivants de manière générale. Donc, ça va être sur Terre les lucioles ou les vers luisants.
Ah, comme les vers luisants,
exactement. Et dans la mer, plus de 80% en fait, des organismes connus. Et donc, ça va vraiment du poisson à la microalgue, en passant par le calamar ou l'anémone. Et donc nous, on utilise la bioluminescence à l'échelle de bactéries marines qui vivent en principe chez des calamars ou chez des poissons. Et on vient en fait cultiver ces bactéries marines, les rendre performantes en termes de production de lumière pour créer du mobilier urbain.
Alors si vous nous suivez en direct sur europe1.fr, tout ce que vous êtes en train de nous raconter, Sandra Ray, vous pouvez le voir en images pour que l'on comprenne bien quelle est votre solution. Donc si je comprends bien, des poissons peuvent faire de la lumière, donc nous les êtres humains, on est capable de recopier cette lumière et c'est comme ça que vous avez créé cette solution. Donc un peu à l'image des vers luisants et des lucioles, ça veut dire que vous utilisez la matière première vivante.
Oui,
pour votre solution ?
Tout à fait, cette matière, ce sont des bactéries. Et donc l'avantage d'une bactérie, c'est qu'on peut la cultiver à l'infini. Donc on fait de la culture en laboratoire. En fait, une fois qu'on a des souches bactériennes qu'on peut trouver soit dans des prélèvements d'eau de mer de quelques millilitres ou bien des banques de souches qui existent, on a plein d'autres souches à disposition maintenant dans nos laboratoires, on vient les cultiver et à chaque fois, on prélève une petite partie pour créer des sortes d'aquariums en fait, qui accueillent ces bactéries, qui viennent croître, continuent leur croissance et qui du coup sont vivantes à l'intérieur et continuent à produire de la lumière.
Donc cette matière première vivante, elle luit dans l'obscurité. Et vous faites comment ? En labo, vous faites tout ce mélange, mais vous cultivez tout ça en laboratoire ? Et ensuite, vous vendez votre solution à des collectivités ?
Oui, alors nous, en laboratoire, on cultive et puis on fait en sorte que les bactéries soient meilleures. Donc, on les fait évoluer pour les rendre plus performantes, donc plus lumineuses, moins consommatrices de nutriments, plus adaptables à des variations de température, par exemple. Et ensuite, on vend des infrastructures qui sont donc du mobilier urbain. Le premier, on va tester dans quelques mois dans la ville de Rambouillet, c'est un mobilier urbain de signalétique.
Donc, c'est un banc ?
Non, c'est de la signalétique, donc c'est un plutôt un panneau.
Ah, c'est un panneau, d'accord.
Et donc, en fait, on vend l'infrastructure, le début des bactéries pour commencer la culture. Et puis en fait, après, on va vendre de manière récurrente des nutriments qui viennent nourrir le système exactement comme on viendrait nourrir des poissons rouges.
Donc ça veut dire que ce panneau va remplacer le lampadaire ?
ce panneau va remplacer, en tout cas à terme, l'objectif c'est vraiment non pas seulement de remplacer le lampadaire, mais de réfléchir avec les collectivités à comment est-ce qu'on éclaire demain, en prenant en compte que la ville, elle évolue. Et donc l'approche du lampadaire est notamment très pertinente, par exemple dans des zones où il y a beaucoup de circulation de voitures. Aujourd'hui, il y a des centres qui se piétonnisent, il y a de plus en plus de frontières entre la nature, justement des zones plutôt vertes, et des zones piétonnes, des places. Et donc on travaille vraiment avec les collectivités sur le réaménagement et la rénovation de leurs centres urbains pour implémenter une nouvelle mise en lumière.
Nathalie ?
Mais alors, c'est quoi la complexité d'installation, en fait parce que là, il faut entretenir, donc il faut régulièrement remettre des nutriments. Mais après, ça s'installe comme un panneau classique. Il y a des connexions électriques, il faut de l'eau. Comment ça marche ?
Alors aujourd'hui, on est effectivement relié au réseau d'eau et au réseau d'électricité, qui fonctionne qu'à certains moments en fait, clés. Le système se remplit et une fréquence qui est à déterminer en fonction du dimensionnement de l'installation, donc ça dépend vraiment de l'installation. L'agent, soit de l'opérateur de lumière, des réseaux de lumière, soit de la collectivité des services techniques, vient simplement d'un geste très simple, remettre des nutriments à l'intérieur du système, comme une petite poche qu'on viendrait re-remplir et qui permet du coup de faire durer le système.
Vincent, mais c'est comme les espaces verts en fait. C'est comme, au lieu de nourrir les plantes, on va nourrir
exactement,
la lumière.
On s'inscrit vraiment dans des logistiques qui existent déjà en fait, simplement avec une nouvelle offre.
Avec une nouvelle offre. Vincent Symbeau, notre grand témoin du jour, directeur exécutif chez La Croix City, vous en pensez quoi ? Quel regard portez-vous ? Parce que vous aussi, vous travaillez sur la nouvelle façon d'éclairer nos villes.
Tout à fait, c'est notre troisième axe chez City, la gestion de l'éclairage public. Alors, on ne fournit pas les lampes en tant que telles, mais on fournit les systèmes intelligents qui permettent de les contrôler, donc de contrôler la luminosité.
C'est-à-dire, il y a un passant qui traverse la rue,
voilà,
vous allez éclairer, il n'y a personne, vous laissez éteindre.
On va augmenter l'éclairage, et puis il y a des cas plus complexes liés au trafic, etc., etc., ou à la consommation énergétique, parce qu'en fait, c'est la clé maintenant, notamment avec les nouvelles générations de lampes LED qui sont en train d'être déployées au niveau des collectivités. Vous pouvez baisser la facture énergétique tout en garantissant un éclairage public, ce qui est quand même très important pour la sécurité routière et publique. Moi, je trouve que c'est une super innovation. C'est très intéressant parce que ça adresse un sujet qui est de la consommation énergétique. C'est un complément intéressant par rapport aux technologies, on va dire, classiques d'éclairage public. Et j'imagine déjà qu'on pourrait avoir des petites discussions là-dessus.
Ah, bah,
vous n'y avez pas pensé à ce type d'innovation ?
Mais nous, on n'est pas sur l'éclairage en tant que tel, mais par contre, je serais intéressé de voir si on peut vous aider sur l'aspect télégestion et télédétection, parce que la clé aussi, c'est de pouvoir contrôler cette luminosité et de pouvoir l'adapter au cas d'usage de la voirie, que ce soit les parkings, les routes, les rues. Pourquoi pas aussi sur la signalétique, c'est un mot qui sonne aussi chez nous, puisque là, on revient sur la partie du début, mais voilà, ça peut être aussi intéressant. Et l'aspect, je perçois aussi qu'il y a une bonne réflexion sur le business model, avec l'aspect justement de manière récurrente venir rebooster un peu, enfin réalimenter ces mobiliers urbains. Ça me paraît très intéressant.
Donc il y a peut-être des choses à faire ensemble entre La Croix City et Egloï. Pour l'instant, Sandra Ray, vous avez déjà mis en place, je crois, deux produits. Un parasol urbain qui fait de l'ombre dans la journée, c'est ça ?
Alors ça, c'est un produit qu'on est en train de...
Et la lumière le soir.
C'est un produit qu'on est en train de développer, qui est effectivement un produit qui va permettre de remplacer dans un certain nombre d'espaces l'approche traditionnelle du lampadaire en créant un îlot de fraîcheur dans la journée et en étant un support de lumière et de convivialité. La lumière aussi dans la ville, elle n'est pas que sécuritaire, c'est un vrai vecteur de social en fait, aussi de sentiment de confort, de sentiment de bien-être. Et donc c'est dans ce type de projet qu'on développe ce type de produit.
Et quand il faut éteindre, vous faites comment avec vous ?
Alors, on ne peut pas forcément éteindre de manière exactement comme on le fait avec un lampadaire classique, enfin avec une LED, je dirais, parce que ce n'est pas le lampadaire en tant que tel, c'est vraiment la technologie. En revanche, il y a des manières de faire. Par exemple, il y a de l'oxygène qui circule à l'intérieur du système, donc on peut, en coupant cet apport d'air, en fait, éteindre la lumière, puisque l'air est un élément de la réaction.
C'est extraordinaire. Ça s'appelle Glowy. Merci Sandra Ray d'être venue aujourd'hui dans La France Bouge. Il est 13h24 sur Europe 1.
Europe 1. La France Bouge. Elisabeth Assayag.
Bien sûr qu'elle bouge cette France et nous on le voit chaque jour entre 13h et 14h sur Europe 1 autour d'un grand témoin du jour. Aujourd'hui on parle de la ville de demain, de la signalisation intelligente et nous sommes ravis d'être avec l'un des acteurs majeurs en France, c'est La Croix City et son directeur général exécutif Vincent Symbeau est notre invité du jour. Alors Vincent Symbeau, parmi les exemples de villes intelligentes, vous nous avez évoqué Rennes, hein, je crois.
Rennes, on a aussi Angers.
Et il y a aussi
Nice,
Sète. La ville de Sète, en région Occitanie. Là-bas, vous avez, la Croix-City, accompagné la ville pour désengorger notamment des axes routiers. Vous avez renforcé la sécurité. Et dans toutes vos solutions, vous vous adaptez aussi aux contraintes géographiques, aux contraintes touristiques. Qu'est-ce que vous avez mis en place dans cette ville de Sète ? Parce qu'elle figure comme vraiment l'exemple de la ville de demain.
Alors, c'est une solution, somme toute, relativement simple, avec des technologies bien adaptées, bien étudiées, assez solides. Mais en fait, on a combiné deux savoir-faire. On a combiné le savoir-faire d'un panneau qui montre le nombre de places de parking libre que tout le monde connaît.
Donc, par exemple, les parkings municipaux qui sont tous engorgés au moment où il y a le marché.
Pour les villes touristiques
Vous avez mis quoi en place, par exemple, pour désengorger les parkings, pour fluidifier ?
Donc, on a complété ce panneau avec un temps de parcours pour aller sur les parkings. Mais un temps de parcours qui est extrêmement précis par rapport à ce que vous allez avoir sur vos téléphones portables.
Alors, ça veut dire quoi, un temps de parcours précis ?
Eh bien, ça va vous dire, le parking municipal à côté de la plage, il y a 5 places de libre et vous y êtes en 2 minutes. Et c'est 2 minutes garanties.
Donc, grâce à votre solution, on est géolocalisé.
On n'est pas géolocalisé. Non, justement, c'est pas intrusif sur la personne. Ça compte les voitures à des endroits précis et ça permet de calculer le parcours en fait entre le moment où on est au panneau et le moment où on sera dans le parking.
C'est le panneau qui déclenche la distance qui nous reste à parcourir.
Exactement.
Ah oui, donc c'est pas intrusif. Vous ne travaillez pas avec des données alors ?
Non, on ne travaille pas avec des données personnelles. Ça, c'est très important. En fait, on utilise l'infrastructure. Quelque part, on fait parler les objets. Mmh. Et ça, c'est un avantage énorme, c'est que c'est anonyme. Ça appartient à tout le monde.
Surtout ici, en France, on aime bien rester anonyme et pas qu'on n'utilise pas nos données perso.
C'est de la donnée exploitable par les collectivités. Et en fait, c'est notre rôle principal, c'est d'aider les collectivités à récupérer ces données et à travailler des cas d'usage autour de ces données.
Donc ça, c'est par exemple pour fluidifier les parkings. Il y a quoi d'autre dans cette ville de Sète qui fait figure d'exemple de la ville intelligente.
On va faire ce dont on parlait tout à l'heure, de la télégestion, la télédétection d'éclairage public. C'est un sujet une grosse vague en ce moment d'investissement des collectivités.
Vous, c'est avec de la technologie LED. Hein.
Oui, alors c'est notre spécialité, entre guillemets, c'est d'accompagner cette LEDification. C'est un nouveau mot dans notre jargon.
La LEDification.
Voilà, c'est-à-dire que dans le parc actuel d'éclairage public en France, il y a à peu près 10 millions de points d'éclairage public en France. On avait 23% qui ont été déjà mis dans cette nouvelle norme, qui est beaucoup moins énergivore que les anciennes technologies. Et donc, il y a un phénomène d'investissement, soutenu d'ailleurs aussi par l'État, qui permet aux collectivités de moderniser leur parc et de réduire la facture énergétique. Parce que c'est un vrai sujet, et là, en ce moment, un peu plus avec l'activité actuelle.
Ouais, avec la hausse du prix d'énergie.
Exactement, et c'est une hausse qui probablement va rester à un certain niveau, malheureusement. Donc, il y a un vrai sujet de dépenses pour les collectivités. Ça peut représenter jusqu'à 40% du budget de l'énergie d'une collectivité, l'éclairage public.
Vous apportez cette solution. Nathalie ?
Au-delà de vos savoir-faire techniques et technologiques, est-ce que vous aidez aussi les collectivités ? C'est des maires qui doivent gérer 50 sujets différents sur le plan de financement, sur obtenir l'accord de sa population. Enfin, comment est-ce que vous les aidez aussi là-dessus, sur ces sujets très politiques finalement ?
Alors, on ne les aide pas directement là-dessus, parce que nous, on a un métier très technologique, très équipementier, on est des industriels aussi. Par contre, on a effectivement tout un écosystème qui travaille autour de ça. Il y a des bureaux d'études qui les aident là-dessus. Il y a aussi des partenaires qui vont intégrer, opérer ces villes du futur. Donc, on travaille avec tout cet écosystème pour effectivement aider les élus à préparer ces projets, à pouvoir les lancer. Bien sûr, on a des contacts directs avec eux pour apporter notre expérience et les aider effectivement à monter ces sujets. Je pense que globalement, il y a un savoir-faire assez important présent qui commence aussi.
On se situe comment, nous, en France, par rapport à toutes ces villes intelligentes ?
Je pense qu'on a un modèle qui est assez leader en Europe.
Ah oui.
Et notamment aussi par le fait de vous faire parler cette infrastructure avec de la donnée anonyme.
Anonyme, mais c'est l'élément majeur. Ouais. C'est-à-dire que vous n'utilisez pas nos données personnelles, vous n'êtes pas intrusif, c'est le panneau de signalisation qui parle.
Voilà, ou l'éclairage public qui parle, ou le carrefour qui parle.
Alors chaque jour dans La France Bouge, on aime revenir sur l'histoire d'une marque, d'une entreprise, d'une association ou d'une ville, tiens, aujourd'hui, qui ont traversé les années, qui sont toujours là en France. Aujourd'hui, on vous emmène dans une ville nouvelle, c'est la Grande Motte. Elle a été créée en 1963. À la base, c'était une zone marécageuse. Aujourd'hui, c'est une station balnéaire et c'est la saga du jour.
Europe 1. La France bouge. La saga.
Bonjour Quentin Paillet.
Bonjour Elisabeth.
La Grande Motte, c'est une ville nouvelle. Elle est située près de Montpellier. Elle a été créée pour attirer les touristes. Mais pourquoi on l'appelle ville nouvelle, Quentin?
On l'appelle ville nouvelle parce qu'à la Grande Motte, avant 1963, à part du sable et trois fermes, il n'y avait rien. Replaçons-nous dans le contexte de l'époque. Nous sommes en pleine Trente Glorieuse. Les Français partent de plus en plus en vacances, au soleil, au bord de la mer. Oui, mais ils partent surtout sur le littoral espagnol. Ils boudent le sud de la France. Tout simplement parce qu'il n'y a pas d'infrastructure suffisante pour les recevoir. Le gouvernement de l'époque met alors en place la mission Racine, qui a pour objectif de réfléchir et de faire sortir de terre 6 stations balnéaires. Parmi ces stations, la Grande Motte. Mais il faut attendre 10 ans pour que la Grande Motte devienne une ville à part entière, comme nous l'explique William Servat, archiviste de la ville de la Grande Motte.
En fait, ça appartenait à la commune de Moyaux-Carnon, qui est une commune qui est de l'autre côté de l'étang de l'Or. Et la Grande Motte a eu son indépendance et a été déclarée commune le 1er octobre 1974, suite à la manifestation des habitants de vouloir cette indépendance, car la commune mère Moyaux-Carnon était de l'autre côté de l'étang. Tous les services administratifs quasiment étaient installés là-bas, donc c'était assez loin pour les habitants.
Alors pourquoi la Grande Motte, Quentin, s'appelle la Grande Motte?
Tout simplement, c'est dû à la géographie. Nous sommes près de Montpellier, au bord de la mer. À cet endroit, le paysage est plat, sauf une grande dune qui servait depuis très longtemps comme moyen de repère pour les navigateurs, c'est la Grande Motte. D'ailleurs, les principaux bâtiments d'habitation ont la forme d'une dune, une architecture révolutionnaire. Et tout dans cette ville est révolutionnaire, d'abord sa raison d'être. Elle est faite pour le tourisme, le balnéaire pour tous, selon les mots de l'époque. C'est aussi, par exemple, la première ville d'Europe à enterrer tous ses réseaux électriques, téléphones. Et cette vision nouvelle, nous la devons à Jean Balladur, l'architecte de la Grande Motte.
Toutes les infrastructures, ça a été très rapide. En fait, c'est le gouvernement, c'est l'État qui a mis toutes les infrastructures en route, toutes les voies de communication, les adductions d'eau. Après, pour la construction de la ville, en fait, c'est les promoteurs qui achetaient des terrains, en fait, qui ont remboursé la totalité de l'opération. Depuis 2010, la station balnéaire de la Grande Motte a reçu le label architecture contemporaine remarquable pour l'exceptionnelle qualité de son urbanisme, de son architecture et de son aménagement paysager.
Alors, autre particularité, la ville est très verte. Une volonté de Jean Balladur. À l'époque, les touristes faisaient parfois des dizaines d'heures en voiture sans clim, parce que la clim, ça n'existait pas. Alors, Jean Balladur voulait absolument que les vacanciers ressentent la fraîcheur de la verdure.
Il y a 70% de la superficie de la ville qui est en espace vert, espace naturel. Il n'y a que 30% de bâti. C'est une ville-parc. Quand on a créé la Grande Motte, il y a des essences végétales qui ne pouvaient pas pousser, qui ne pouvaient pas se développer sur ce terrain assez hostile. Et maintenant, avec la protection végétale, toute cette canopée de pins que nous avons au-dessus, ça crée un microclimat autour de la Grande Motte. Et maintenant, il y a des essences végétales que, par exemple, nous pouvons installer, que nous ne pouvons pas installer il y a quelques années. Et on a vraiment une sorte de bulle climatique autour de la Grande Motte.
Cet architecte Jean Balladur, il a un lien avec Édouard Balladur?
Oui, c'est le cousin d'Édouard Balladur.
Le cousin. Alors, vous l'avez dit, la Grande Motte a été conçue pour recevoir des touristes. Est-ce que la mission est réussi?
Oui, Elisabeth, mission accomplie pour la Grande Motte. La ville compte 8600 habitants à l'année et plus de 120 000 touristes.
Et il y a beaucoup de villes nouvelles dans le monde comme ça, comme la Grande Motte, des villes construites sur des terrains vagues. Là, la Grande Motte, c'était totalement marécageux. Il y en a d'autres?
Alors, il n'en existe que trois, Elisabeth, toutes construites dans
trois
les années 60. Oscar Niemeyer a créé Brasilia, la capitale du Brésil. Chandigarh, en Inde, a été pensée et conçue par Le Corbusier et donc Jean Balladur et la Grande Motte.
On peut être fiers alors de nous. Merci Quentin Paillet pour cette saga du jour. La Grande Motte, ville nouvelle créée dans les années 60. Vous restez avec nous, Nathalie Carré, en charge de l'entrepreneuriat à la CCI et Vincent Sabot, directeur général exécutif de l'activité City de la Croix City, vous êtes notre grand témoin du jour et vous allez accompagner maintenant un entrepreneur qui se lance. Est-ce que vous êtes prêt?
Je suis prêt.
Eh bien, on y va.
Europe 1. La France bouge. Elisabeth Assayag.
Et c'est parti pour les trophées de l'avenir. Chaque jour, elle ou ils exposent leur projet d'entreprise. Ils ont une minute pour convaincre notre témoin du jour. Il est exigeant, il est attentif. Il est bienveillant, évidemment, c'est un expert. Aujourd'hui, nous sommes avec vous, Vincent Sabot, directeur général exécutif de La Croix City. Nous sommes toujours avec Nathalie Carré, en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de commerce et d'industrie. Aujourd'hui, on vous propose un projet qui est tout récent, qui a à peine quelques mois. Bonjour, Chris Corignon.
Corrigan.
Ah bah, fallait mieux. Alors, on va le refaire. Bonjour, Chris Corrigan.
Corrigan.
D'accord, Corrigan. On va y arriver.
Bonjour, Elisabeth.
Donc, vous êtes le cofondateur de Bim Boom. Vous avez 23 ans. C'est difficile, les noms, hein, Corrigan, Bim Boom. 23 ans et vous avez déjà monté votre propre start-up puisque c'est un service de chauffeur électrique à vélo adapté aux déficients visuels, c'est-à-dire à toutes les personnes qui ont des gros problèmes de vue.
Qui sont aveugles ou malvoyantes, exactement.
Malvoyantes ou aveugles. Alors vous, vous avez un parcours assez particulier puisque vous avez été livreur pendant des années, hein, quand vous étiez étudiant sur des plateformes ou comme Deliveroo, on peut les citer, pendant vos études de cinéma. Et vous avez eu envie de développer un service tel que Bim Boom. Alors c'est quoi Bim Boom ? Comment ça marche ? Vous avez une minute pour nous convaincre. C'est parti !
Alors il y a peut-être des personnes qui nous écoutent actuellement, qui sont coincées dans les bouchons. Je pense notamment aux taxis, dont c'est le métier d'être toujours sur la route. Mais la circulation dans les milieux urbains, elle ne cesse de s'empirer parce que les villes sont en train d'être dessinées. On veut moins de voitures, moins de bruit, moins de pollution et plus de place pour les piétons et pour les mobilités douces notamment. Alors, Bim Boom, c'est un service de chauffeur privé avec des vélos. Des vélos un peu particuliers qui peuvent transporter jusqu'à 2 passagers et leur sac très confortablement, qu'il pleuve ou qu'il vente, aussi rapidement qu'un vélo électrique standard. Par rapport à une voiture, les chauffeurs vont perdre moins de temps dans les embouteillages et les passagers vont bénéficier quant à eux d'un service plus adapté à la ville, plus économique, plus efficace et le tout sans émissions carbone. Bref, c'est en quelque sorte un Uber, mais en adéquation avec la ville de demain. Aujourd'hui, on a 3 prototypes qui circulent dans Paris exclusivement pour les personnes déficientes visuelles, à un forfait de 8,20€ la course.
Eh ben c'est très bien, avant le gong. Voilà, c'est parfait. Donc ça s'appelle Bim Boom. Pourquoi c'est seul... enfin, vous vous adressez aux personnes aveugles ou déficients visuels, mais en fait c'est pour tout le monde.
C'est pour tout le monde, c'est juste qu'on ne pourrait pas actuellement à l'échelle de 3 véhicules.
Oui, parce que vous n'avez que 3 véhicules, mais finalement on pourrait aller plus loin.
Bien sûr, c'est, hein, ça fait partie de l'ambition. Ouais.
Évidemment. Alors je me tourne vers Nathalie Carré en charge de l'entrepreneuriat à la CCI qui étudie et analyse chaque jour les projets d'entreprise. Quelles sont les forces et les faiblesses de Bim Boom, Nathalie ?
Eh ben, en 72, Joe Dassin chantait déjà qu'à Paris, en vélo, on dépasse les autos. Eh ben, c'est toujours le cas. Je ne vais pas le chanter, je me suis fait avoir une fois déjà.
Mais si, allez-y, on est là pour ça.
C'est donc toujours le cas. Donc effectivement, votre solution de déplacement est la plus efficiente. En plus, ça semble agréable, reposant. En fait, ça fait quelques minutes de pause dans ce monde de brut. Pour le moment, vous adressez aux déficients visuels, car votre véhicule permet de s'approcher au plus près du lieu de destination du client. Bon, bah, vu que c'est quand même déjà 1,7 million de personnes en France et près de 90% des personnes de plus de 65 ans, ça fait déjà quand même un petit peu de travail. Et puis, bravo pour le tarif, accessible vraiment au plus grand nombre. Alors, je n'ai pas de point amélioré, des suggestions, parce que vous démarrez et puis vous êtes un peu au four au moulin, donc c'est compliqué. Alors, en attendant d'avoir les moyens de recruter, il faut prioriser et déléguer. Alors déjà, la prise de commande, ça peut se déléguer à une assistante externalisée. Il suffit qu'elle ait une trame de questions à poser, notamment pour une prise en charge vraiment optimum des personnes déficientes visuellement. C'est une charge variable, donc pas de clients, pas de dépenses. Pour les chauffeurs, idem. Pour débuter, faites appel à des indépendants. Pas de clients, pas de dépenses. En revanche, le tarif est hyper avantageux pour les clients, mais beaucoup moins du coup pour les chauffeurs. Vous pouvez peut-être leur proposer des parts dans l'entreprise en compensation, enfin, à voir comment les inciter à travailler de façon très qualitative et attentionnée pour quelques euros par course. Vous, vous vous consacrez au développement d'entreprise, trouvez des partenaires pour construire plus de véhicules et former les équipes. Alors, vu que l'ADN de Lacroix est de mettre son excellence technique et industrielle au service d'un monde connecté et responsable, il y a peut-être un truc à faire. A priori, vous avez des clients fidèles, donc pour assurer vos finances, vous pourriez peut-être tester un abonnement de quelques euros par mois. Il y a des taxis spécifiques pour les enfants qui l'ont testé. Puis vous rajoutez évidemment le prix d'une course. Les personnes abonnées seraient peut-être prioritaires sur les réservations, par exemple. Et si l'angle des personnes déficientes visuelles est une super piste, vous pourriez effectivement élargir la piste.
Mais quand ils auront plus de véhicules.
Il faut avoir un peu plus de véhicules, effectivement. Mais plutôt que tout le monde, peut-être l'ensemble des personnes fragiles ou qui cherchent une sécurité, qui sont en capacité de réserver leur chauffeur, puisqu'il faudra toujours avoir cette réservation, mais qui ont quand même besoin d'être à l'heure. Hein. Donc les personnes en situation de handicap, bien sûr, les personnes âgées, les personnes blessées, un pied dans le plâtre, hein, ça peut... Voilà. Bref, toutes les personnes qui ont besoin d'un chauffeur attentif, qui les aide, qui les amène au point de destination en toute sécurité. Bim Boom, c'est le chauffeur privé qui vous offre une prise en charge aux petits oignons, qui vous promet d'arriver à l'heure avec un accompagnement personnalisé.
Il est sans voix.
Bah, merci beaucoup Nathalie, c'est hyper dense, j'ai pas tout noté.
Non mais alors il y a un podcast à La France Bouge, donc vous pouvez l'écouter, le réécouter et prendre vos petites notes parce que franchement c'est précieux tous ces conseils.
Alors merci beaucoup Nathalie, je pense que vous avez raison qu'il faut qu'on améliore déjà peut-être nos systèmes de réservation pour que ce soit plus simple, qu'on ait moins de travail sur ce point-là et qu'on puisse se concentrer sur le développement de notre véhicule. Et aussi vous avez raison de souligner que je pense qu'il faut qu'on trouve des partenaires industriels pour accroître notre flotte et avoir des véhicules qui sont mieux construits.
Regardez sur votre droite là, regardez monsieur à droite.
Bonjour, monsieur. On vous présente monsieur Vincent Sabot, directeur général exécutif de l'activité City, de la Croix City. Je pense que vous avez des trucs à vous dire.
Effectivement, je trouve que c'est une très belle idée et l'aspect inclusion est quelque chose d'important dans une entreprise. De nos jours, ça l'était avant et je pense que ça l'est encore plus maintenant. Mais de ne pas seulement faire des choses pour des aspects économiques, mais d'amener un sens finalement à la société, à la communauté. Et même si, in fine, pour des raisons de profitabilité, j'imagine qu'il faudra probablement étendre l'accès de ce service à d'autres personnes que les personnes malvoyantes, c'est une très belle approche. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment vous allez pouvoir gérer l'hypercroissance qui est nécessaire à une start-up. En fait, il faut aller vite, monter vite, récupérer des clients, accroître son parc, mais il faut aussi du cash pour ça. Donc, il faut aller chercher des fonds.
Exactement.
Et quelle est votre ambition là-dessus? Vous voulez viser tout Paris, j'imagine, la France, aller au-delà?
Alors on va commencer par Paris, ce serait déjà génial. Mais effectivement, il faut qu'on aille chercher des fonds pour financer nos développements. Ça peut être des financements publics comme privés. Et donc, oui.
Vous avez reçu un premier investissement en septembre
dernier, oui,
avec l'incubateur de l'école 42.
Hein. Ouais, donc c'est un premier ticket de 50 000 euros. Donc ça nous permet de vivoter, mais ça ne nous permet pas d'accroître notre flotte. Et c'est là où des fonds supplémentaires seront bienvenus.
Et ben, vous reviendrez nous en parler. Si vous faites des choses avec la Croix City, ça aussi, ça nous intéresse. Et puis, avant de nous quitter, allez, on va faire un petit cadeau à Nathalie Carré avec la complainte de l'heure de pointe.
Dans Paris, à vélo, on dépasse les autos. À vélo, dans Paris, on dépasse les taxis.
Et voilà, on écoute un petit peu Jodassin. Et pendant ce temps, j'ai vu Vincent Sabot donner sa carte de visite à Chris Corrigan pour Bim Boum. Hein, c'était le pitch du jour. Merci à vous d'être venu aujourd'hui dans La France Bouge. Et puis si vous aussi, vous avez envie de nous envoyer votre projet d'entreprise, si vous avez envie de venir pitcher, il n'y a qu'une seule adresse.
C'est e1-lafrancebouge@europe1.fr et promis juré, Charlotte Barécan et moi, on lit toutes les candidatures.
Et vous aurez peut-être la chance de faire partie de nos candidats en route pour les trophées de l'avenir. Il est 13h50 sur Europe 1.
Europe 1, 13h-14h.
On recrute 1000 personnes, voire 1500 personnes sur toutes nos agences, sur toute la France, sur tous les métiers.
C'est des centaines d'offres d'emploi qui sont à pourvoir.
Aujourd'hui, on recherche énormément de talents.
La France bouge.
Elisabeth Assayag.
Et La France bouge qui vous met en relation avec des entreprises qui recrutent en ce moment. Il y a du travail, on vous le montre chaque jour. Et aujourd'hui, 80 postes à pourvoir, ce sont des CDI. Bonjour Élodie Poisson.
Bonjour.
Vous êtes la DRH de Celsi. Celsi, c'est une entreprise qui existe depuis 12 ans. Vous éditez des logiciels, vous êtes basée à La Rochelle. Et si vous êtes en direct là dans la France Bouge, c'est parce que donc vous recrutez 80 postes à pourvoir. Quel type de poste?
Alors, tout à fait, merci. Donc, bonjour. Aujourd'hui, nous, on recrute, donc nos bureaux sont situés à La Rochelle et à Bordeaux, et on recrute tout type de postes, puisque en tant qu'éditeur de logiciels et intégrateur, nous avons des postes en marketing, nous avons des postes en développement technique, donc des postes de développeurs qui sont énormément recherchés aujourd'hui par toutes les,
ben ouais,
les
ça,
sociétés.
C'est très engorgé, hein.
Oui, tout à fait, mais bon, La Rochelle et Bordeaux ont leur attractivité, donc c'est vrai.
Tout à fait, donc c'était ça qu'il faut mettre en avant. Vous recherchez des postes, mais pas situés à Paris, ça change. C'est à La Rochelle et Bordeaux.
Tout à fait, donc nos bureaux à La Rochelle sont situés à 50 mètres de la mer et à Bordeaux en plein.
Vous savez leur parler. Mais
l'argument, il faut savoir parler au candidat.
Vous commencez comme ça.
Exactement, tout à fait.
Alors, est-ce qu'il y a des candidats, il y a un profil particulier, je ne sais pas, quelle est la culture de l'entreprise?
Alors aujourd'hui chez Celsi, il faut savoir qu'on n'est pas axé sur le diplôme. On recherche aujourd'hui vraiment de nouveaux talents, des personnes qui aiment relever des challenges, qui aiment se surpasser, qui ont une volonté vraiment au quotidien de s'impliquer dans un projet d'entreprise, notamment sur le développement. On voit aujourd'hui, enfin, sur le développement web, qu'il y a beaucoup de reconversions, des personnes qui n'ont pas forcément des formations initiales. Et nous, chez celle-ci, on est avant tout à rechercher des soft skills.
Donc, c'est-à-dire des compétences humaines.
Techniques, mais
un état d'esprit.
Exactement. Mmh.
Donc vous les formez. Donc vous les formez.
On les forme, on les accompagne. On a toute une technologie, enfin tout un processus de formation en interne au moment de l'onboarding et puis tout au long du parcours collaborateur chez celle-ci, avec une méthode agile, du Scrum, etc. Donc on fait monter aussi en compétences nos développeurs.
Donc si vous avez envie de travailler au bord de l'eau, à La Rochelle ou à Bordeaux, il suffit. On fait comment pour postuler?
Alors, on va sur Welcome to the Jungle et on tape celle-ci et vous avez tous nos postes qui sont disponibles et ouverts donc à Bordeaux ou à La Rochelle, sachant que indistinctement, nos postes sont ouverts dans les deux agences.
Merci Elodie Poisson, DRH de celle-ci. Vincent Sabot, vous recrutez chez La Croix City en ce moment? Vous recherchez des collaborateurs?
On recrute sur l'ensemble du groupe et également La Croix City.
Combien de postes?
40 à 50 personnes en ce moment. Tout style de poste aussi, donc ingénieurs, commerciaux, support client, des gens aussi dans la production et dans la logistique.
Vous, c'est pas au bord de l'eau, alors que c'est quoi
pas très loin,
pour
on
les
est à Nantes, on est à Rennes, on est à Nice, donc on a aussi le bord de l'eau, on est à Lyon, Angers.
Partout en France.
Voilà, mais en province, hein, donc essentiellement. Et effectivement, alors, pas tout à fait exactement les mêmes positions que Selfie, mais on recrute effectivement à tous les niveaux.
C'est déjà la fin de votre émission. On en sait beaucoup plus grâce à vous, Vincent Sabot, sur les villes connectées, les villes de demain, hein, ces carrefours intelligents. Merci d'être venu aujourd'hui
dans
La France Bouge. Je rappelle que vous êtes le directeur général exécutif de l'activité City de La Croix City. Nathalie Carré, nous on se retrouve demain.
Demain,
on va découvrir l'univers d'une marque de vêtements qui se lance dans la mode, elle aussi éco-responsable. C'est IKKS. À demain. D'ici là, le flash suivi de Christophe Ondelat.